trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
Et Léo Ferré, on ne s'en lasse pas. Je vous rappelle que vous êtes sur Vendredi Théâtre, l'émission hebdomadaire de théâtre sur Divergence FM. Et nous recevons le plateau suivant avec la pièce Camus Nobel Pinter qui se joue au Théâtre des 13 Vents. Et j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Laudier, bonjour.
Bonjour.
Et Dag Jeanneret, bonjour Dag.
Bonjour.
Alors de quoi s'agit-il Camus Nobel Pinter? Il s'agit des deux discours qu'ont prononcés Albert Camus et Harold Pinter à 48 ans d'intervalle, si je ne me trompe pas, pour leur réception du prix Nobel. Et donc c'est d'après Discours de Suède d'Albert Camus et Art, Vérité et Politique de Harold Pinter. Alors cette rencontre entre Camus et Pinter, comment vous en est venue l'idée?
Au départ, je suis parti sur le discours de Suède de Camus. C'était ça le projet originel, mais c'était un petit peu, c'est très pratique ce que je vais dire, c'était un peu court. donc j'ai essayé de trouver, j'ai trouvé rapidement un discours qui puisse un petit peu être une entrée en résonance, voilà, avec le discours de Suède, à la fois pour des raisons, on va dire, politiques, philosophiques et idéologiques.
Alors le discours de Camus a donc été prononcé en 57. Pendant la guerre d'Algérie, et celui de Pinter en 2005, en pleine guerre d'Irak.
C'est bien ça.
Et pourquoi avoir commencé par le discours de Pinter et pas avoir pris un ordre chronologique? Moi, c'est ce qui m'a un peu étonné au départ. Je me suis dit, tiens, on va commencer par Camus, logiquement, et on commence par Pinter.
Oui, on a remonté le temps un petit peu en sens inverse. Non, il me semblait que le discours de Pinter était très... je pense toujours qu'il est très, très offensif, abrupt, brutal, sans compromission, on va dire, c'est pas qu'il est pas très positif, mais enfin il fait un état du monde un peu critique, un peu violent comme ça, un peu désespéré, on va dire. Alors que celui de Camus, qui est écrit effectivement à la fin des années 50, même si Camus est pris lui-même personnellement dans le conflit algérien, que bon, il y a des guerres un peu partout, encore en Europe, notamment en Pologne et en Hongrie, il est porteur d'un espoir. Donc je voulais finir sur une note d'espoir, à vrai dire. Voilà, c'était l'intention.
C'est vrai aussi que le discours de Pinter, il est assez violent, il est assez offensif. Et dans les années 50, ça ne devait pas être possible d'avoir un tel discours.
Alors si, c'était possible, mais c'était pas forcément sur ce type de
dans le cadre du Nobel, je veux dire.
Voilà, c'était, oui. Mais alors moi, j'ai pas lu tous les autres, enfin ceux qui ont précédé, enfin ceux qui datent de cette époque-là, qui sont contemporains de cette époque. Mais je pense que c'était pas le je pense que Camus était vraiment trop englué sur le problème algérien pour tout d'un coup être volontairement offensif lors de la réception de ce prix. Mais ce qu'il était, il l'était par contre. Alors, offensif, plus ironique qu'offensif, mais il l'a été aussi dans les nombreuses, parce qu'il a donné des centaines de conférences un peu partout dans le monde, avant et après, enfin, et un peu après, parce qu'il est mort en 60. Et, donc, offensif, il l'était, mais il n'a pas profité de son allocution lors du Nobel pour l'être, à nouveau.
Enfin, c'est vrai que les prix Nobel avaient un peu évolué. Il y avait eu Dario Fo, il y a eu Saramago, il y a eu Pinter, donc il y avait une volonté en même temps une possibilité de dire plus de choses pour les écrivains qui recevaient le prix Nobel.
Oui, je ne sais pas trop, parce que je ne les ai pas tous lus, mais en fonction des époques, en fonction des conflits, en fonction des personnes. Pinter était quelqu'un de très engagé politiquement, donc il a naturellement prolongé devant l'Académie Nobel l'attitude qui a été la sienne tout au long de sa vie, c'est-à-dire tout d'un coup de mettre un peu à mal la manière dont la plupart des gouvernants, et notamment les États-Unis, conduisent leur politique étrangère.
Alors c'est Fanny Rudel qui joue Albert Camus. Pourquoi avoir choisi une femme pour interpréter Camus?
Alors pour des raisons, je voulais à la fois qu'il y ait un décalage, qu'il n'y ait pas trop d'identification entre le moins possible entre l'objet et son sujet, si je puis dire. Et ce qui m'intéressait, c'était ce qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'était de faire ressortir à l'intérieur de ce discours qui peut apparaître un peu conceptuel, un peu littéraire comme ça, la dimension sensible du discours. Et il m'a semblé, c'est très subjectif, qu'une femme était peut-être plus à même sur ce type de texte que de le faire qu'un homme. C'est un préjugé.
Alors Dag, toi tu joues Harold Pinter, comment tu as appréhendé ce discours?
En apprenant le texte, qu'est-ce que c'est que cette question? Comment j'ai appréhendé? Écoute, J'ai suivi les indications du metteur en scène, ce que font d'ordinaire les comédiens quand ils ne sont pas trop pénibles, ce qui est leur boulot. J'ai peut-être été un chouïa facilité parce que ce que dit Pinter, je le partage, si ce n'est totalement, du moins pas loin. Je parle d'un point de vue idéologique. Mais enfin, un comédien de droite, s'il avait été un comédien bon, aurait pu aussi tenir ce genre de propos. Le propre d'un comédien, normalement, est d'arriver à faire entendre des mots et des paroles et des concepts, y compris très éloignés de lui-même. Mais de fait, c'est vrai que j'ai une espèce d'empathie avec ce texte. Je ne sais pas si je te réponds, mais je tente à ma manière.
Si. C'est vrai que le texte est un peu une charge contre les États-Unis pendant la guerre en Irak.
Oui, alors, bon, ça s'appelle Art, vérité et politique. Donc, le texte, en tout cas le montage qu'en a fait Stéphane, le metteur en scène ici présent, ne privilégie pas que le conflit irakien. Ça commence par, et je pense que c'est aussi important, par une rêverie, une réflexion sur comment écrire des pièces de théâtre aujourd'hui, et le concept de vérité et la difficulté, je ne sais pas si le mot est juste, enfin oui, le travail sans cesse remis sur l'établi de l'écrivain en face à ce qui sort de lui, à ce que sont ces personnages qui deviennent autonomes et cette impossibilité à les maîtriser. Et je crois, si je travaille, je parle sous le contrôle du metteur en scène, si j'ai bien compris, l'envie presque que les personnages lui échappent partiellement. C'est-à-dire l'idée de la... qui est quand même vraiment, oui, un processus créatif qu'on connaît d'ailleurs, qui est valable en art plastique, en littérature, à plein d'endroits, en musique bien entendu, à savoir l'idée de la non-maîtrise des événements, ou de la non-maîtrise de son outil. C'est peut-être un peu confus ce que je dis, mais l'idée de la... voilà, d'une part créative, créatrice, qui échappe à... comment dire, au rationnel. Et je crois que c'est ce qu'il tente de développer dans le début de cette partie du discours. Et de fait, ensuite, il y a la partie plus stricto sensu politique sur ce qu'il a révulsé profondément, à savoir le rôle pernicieux et terrifiant des États-Unis sur cette guerre en Irak, la deuxième guerre d'Irak. Mais Pinter rappelant tous les charmants antécédents de la politique étrangère américaine et de la CIA, du bras armé qu'était la CIA, à partir des conflits des années 50, des coups d'État, à partir de l'Indonésie, de la Grèce, des Philippines, de la Turquie, enfin, toute la puissance de feu des États-Unis pour combattre des révolutions populaires ou des coups d'État de gauche à travers le monde et pour consistant à asseoir la domination économique et politique, mais surtout économique des États-Unis. Mais qui est une chose que finalement on sait à peu près. Pinter le redit et le situe, il parle du Chili bien entendu, bon, c'est une des choses je pense les plus connues, le conflit des camionneurs orchestré par la CIA avant le coup d'État du 11 septembre 73 pour pourrir le gouvernement Allende, c'est je pense une des choses les plus connues comme ça, plus ou moins, pour les spectateurs européens ou les lecteurs européens, mais il fait allusion effectivement à d'autres coups d'État qu'on a oubliés. Les colonels en Grèce, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Tito ne les a pas oubliés, toi non plus, mais il y en a beaucoup. Le Brésil, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été passées sous silence et dont la presse ne parle plus et dont la presse de l'époque, et ma phrase est à rallonge, je m'arrête, je te rassure, dont la presse de l'époque parlait mal ou peu. Donc voilà, il tente de faire une sorte d'état des lieux
de la puissance de feu, dans tous les sens du terme, des États-Unis comme tentative de maîtresse du monde. Même si ça fait un peu marxisme de Bar-Tabas de le dire comme ça, mais de fait, c'est comme ça.
On s'en fout.
C'est comme ça.
On s'en fout.
Je m'arrête.
Il parle aussi de l'utilisation du mensonge de la part des États-Unis pour cultiver l'ignorance de manière à asseoir son pouvoir.
Voilà, voilà, il en parle très bien. De la manipulation.
On peut être marxiste de base alors à ce moment-là, puisque de toute façon, j'ai parlé du Brésil 64, ils ont fait un coup d'État au Brésil simplement parce qu'ils avaient fait entrer deux ministres communistes dans le gouvernement. Allende, c'est pareil. Allende, on a oublié que le Parti communiste était légal au Chili depuis toujours. Que le Chili était une démocratie de longue date et qui n'avait jamais connu de dictature jusqu'au coup d'État du 11 septembre. Et donc, on peut, puisqu'ils nous oublient, alors soyons-le.
Et puis on est sur Divergence FM.
Oui, on n'est pas un truc. On ne va pas parler des autres.
Hein. Non. Grazia, tu as vu le spectacle avec moi. Oui. Quelles sont tes impressions ?
Alors, avant tout, je voudrais dire que chez les deux, dans les deux discours, il y a quand même la recherche de la vérité qui est fondamentale pour l'un et pour l'autre. Hein. Mmh. Ce sont deux discours politiques avec deux façons différentes de les dire. Hein. Je suis allée chercher dans les archives de l'INA le discours de Pinter qui n'était pas présent. Donc, il était télévisé, enfin, je ne sais pas si on peut dire télévisé, mais en tout cas, il était sur un écran. Et il a prononcé ce discours avec une telle véhémence. D'ailleurs, à un moment donné, il dit, je cite, « Vous voyez ce point, il est mon autorité morale et ne l'oubliez pas.
» Il paraphrase, pardon de t'interrompre une demi-seconde, il paraphrase Bush quand il dit ça. Mmh. Ah. C'est dans un discours imaginaire, mais pas tant que ça d'ailleurs, de Bush. « Vous voyez ce point, c'est mon autorité morale. » Et ne vous avisez pas de l'oublier.
Ah, d'accord. Ok. Enfin, moi ça, je trouve que cette phrase, quand même, collait très bien à lui, quoi, à la façon, à cette véhémence qu'il avait de prononcer ce discours. Et puis Camus, qui, lui, était beaucoup plus... c'était plus posé, plus, même s'il y avait plein d'émotions dans sa voix, parce que j'ai entendu ça aussi à la radio. Alors, j'avais la question, pourquoi avoir confié ce rôle à une femme, en sachant qu'en en 1957, à peine trois femmes avaient eu le prix Nobel de littérature. je crois que c'était une Suédoise, une Italienne et une Chilienne, justement. Donc voilà, j'ai eu la réponse, je vous en remercie. Et puis la deuxième question, c'est pourquoi le clown ? Pourquoi,
ah oui, au début du spectacle.
Pourquoi il arrive habillé en clown ?
Bon, c'est une question que je pourrais vous reposer en sens inverse. Mais donc, si vous me la posez, c'est que... Alors, il y a dans la première partie du texte, comme le disait Dac tout à l'heure, une réflexion sur la création de personnages de la part d'un auteur dramatique, donc qui est Pinter. Et donc, moi, l'idée, c'était un petit peu d'accompagner visuellement... j'essaie d'être concis. Au moment où Pinter était comédien, et au moment où il a écrit ce discours, enfin, à peu près, il jouait une pièce de Beckett, donc en Angleterre, qui s'appelle La Dernière Bande. Donc, il a joué jusqu'à la fin, pratiquement, de sa vie. Et j'ai imaginé, tout simplement, ça a été un préalable à la mise en scène, que ce discours avait été écrit, finalement, entre la fin d'une représentation, on va imaginer de La Dernière Bande, donc de Beckett, et le moment où il s'apprêtait, donc il se démaquille dans sa loge, il rentre dans sa loge, il vient de finir de jouer un spectacle qu'on ne verra pas, en off. Il répète son discours devant nous, et ensuite il va réellement le dire. Donc c'est comme si on le prenait entre deux moments, finalement. Voilà. Et j'ai pris l'image du clown blanc, parce que ça me semblait... pour moi, mais c'est très subjectif, symboliser un petit peu pour moi l'artiste, on va dire, voilà, l'artiste de, non pas de music hall, mais l'artiste de scène, voilà. Et je suis allé chercher, pour être plus précis, parce que j'avais besoin d'une image forte, dans la référence exacte, c'est le film de Chaplin, qui s'appelle Les Feux de la Rampe, où on le voit, là on le voit vraiment, jouer une pantomime, dans le film, et ensuite quitter le spectacle et aller se démaquiller avec Buster Keaton donc dans sa loge. Voilà, l'idée, la première idée c'est Beckett, et ensuite, Pinter jouant Beckett et ensuite Chaplin. Voilà.
Oui, parce qu'en fait, pardon de la ramener, on ne sait pas, très peu de gens savent que, et c'est normal d'ailleurs, que Pinter était comédien tout au long de sa vie. On associe Pinter à l'écriture, par définition, c'est logique, mais pas aussi à, comme Dario Fo d'ailleurs finalement, c'est des hommes de théâtre, Fo n'est pas mort heureusement, des gens complets de ce point de vue-là. Et avec une pratique de la scène, tu m'as expliqué, régulière dans le cas de Pinter. Voilà.
Et j'avais besoin, juste pour finir, parce que voilà, c'était important que visuellement l'image soit forte. Et si je le faisais rentrer, si vous voulez, en costume d'un personnage de Beckett ou même en costume d'Hamlet, tout d'un coup, la valeur symbolique du costume pour moi était importante. C'est pour ça que j'avais besoin de prendre ce qui était le plus chargé. Mais là aussi, c'est subjectif.
Alors, merci. Je vais demander à Dax si
tout rentrer en tutu.
Aussi. Je vais demander à Dax s'il est d'accord, s'il peut nous donner un petit extrait de son discours. Je sais que c'est un exercice pas facile.
Oui, alors on me tend le texte parce que je suis pas foutu de... où est-ce que vous voulez que je vous dise des trucs
Comme tu le sens.
Pas que je crie non plus. On va faire le début. Où on va parler des Américains. On en a marre des Américains. On va faire le début.
On va parler du début.
Allez.
Ouais, c'est très
on
ne
le voit pas, mais on dirait qu'il consulte la carte d'un menu au restaurant.
Ah oui, c'est ça. Est-ce que je vais prendre un céleri rémoulade ou une tête de veau comme Jacques Chirac? Ouais. Tu me couperas quand t'en auras suffisamment. C'est un étrange moment. Le moment de créer des personnages qui, jusque-là, n'avaient pas d'existence. Ce qui suit est capricieux, incertain, même hallucinatoire, bien que parfois cela puisse être une irrésistible avalanche. L'auteur est dans une position bizarre. En un sens, il n'est pas bien accueilli par les personnages. Les personnages lui résistent. Ils ne sont pas faciles à vivre. Ils sont impossibles à définir. On ne peut sûrement pas les régenter. Dans une certaine mesure, on se livre avec eux à un jeu interminable, au chat et à la souris, à cache-cache, à colamaillard. Mais finalement, on découvre qu'on a en main des êtres en chair et en os, des êtres doués d'une propre volonté et d'une sensibilité particulière, composés d'éléments qu'il est impossible de changer, de manipuler ou de déformer. Donc, le langage en art reste une opération extrêmement ambiguë. Un sable mouvant, un trampoline, un étang gelé qui pourrait bien céder à tout moment sous votre poids, à vous, l'auteur.
Merci Dag. Tu voulais rajouter quelque chose?
Qu'il faut aller la voir, cette pièce, parce qu'on apprend plein de choses et puis on est stimulé pour aller chercher plein de choses après.
Ah, il faut signaler que c'est une jauge petite parce que c'est dans la petite salle et donc il y a 100 places.
Et contrairement à ce que disent tous les théâtres de France, il y a toujours de la place dans les théâtres, sauf exception, et il reste quelques places en vente pour les représentations qui se terminent vendredi prochain.
C'était plein.
Oui, c'est plein, mais entre le vrai plein et le demi-plein, il y a toujours quelques places qui traînent. Mais d'expérience, ça fait 30 ans que je fais ça, je le sais. Donc, il ne faut jamais dire que c'est plein parce que ça empêche les gens de venir.
Mais en plus, à Montpellier, on fait un truc que je trouve très, très bien qu'on devrait faire à Paris. C'est-à-dire, les gens arrivent et les dernières places sont distribuées. À Paris, on est là avec la petite affichette. À Montpellier, n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin d'avoir la petite affichette à la main. S'il y a de la place, gentiment, on vous les donnera.
Et nous, on n'a pas de manifestants d'extrême droite religieux. Ça nous ferait beaucoup de publicité, mais on n'en a pas là, parce qu'on n'est pas assez...
Et puis on aurait le plaisir de leur taper dessus. Voilà. Alors donc ce soir, c'est à 20h30. Ça se joue aussi lundi, tiens, c'est curieux. Normalement, il n'y a pas de spectacle lundi.
Eh bien, c'est pour que tu puisses le remarquer. ça joue lundi, effectivement, de lundi à vendredi prochain à nouveau.
Alors le lundi c'est à 19h, le mardi à 19h, le mercredi à 20h30, le jeudi à 19h et le vendredi à 20h30. Je ne me suis pas trompé.
Non, la réservation est le 99 25 25.
Voilà.
Je crois que c'est ça de mémoire.
Je voudrais rajouter que les deux acteurs sont formidables.
C'est gentil, pour elle.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, c'est de 12h30 à 14h, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.